Guy Wagner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste à la Banque de Luxembourg Investments. On va parler avec vous d'économie, hein, savoir un petit peu où on en est justement sur ce cycle économique. De votre point de vue, est-ce que aujourd'hui les risques sont bien identifiés, c'est-à-dire est-ce que on voit quand même un certain ralentissement, notamment en Europe, ou est-ce que tout va bien?
Je dirais d'une manière générale, les facteurs qui sont derrière ce qu'on a observé depuis finalement la crise, c'est-à-dire une croissance relativement modérée et une inflation contenue, sont toujours là. Donc il y a vraiment un certain nombre de freins structurels, je dirais, à une croissance plus forte, qui sont liés à la démographie, qui sont liés à une mauvaise allocation du capital, qui sont liés aux faibles gains de productivité et surtout aux problèmes de surendettement. Donc ces facteurs-là sont clairement toujours là. L'année dernière, on avait une petite accélération de la conjoncture et effectivement aussi toutes les régions qui ont plus ou moins participé à cette conjoncture, notamment la zone euro. Là, pour l'instant, on a à nouveau l'impression qu'il y a à nouveau plus de divergences avec les indicateurs économiques dans la zone euro qui deviennent un peu plus faibles, alors que la croissance américaine semble relativement bien tenir la route.
Alors peut-être parmi les nouveautés, hein, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est la guerre commerciale qui semble s'annoncer. On voit ce qui se passe avec le dossier iranien, mais aussi sur l'acier, sur l'aluminium. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà mesurer sur le plan économique certains impacts?
On ne peut pas encore le mesurer, mais c'est vrai que c'est clairement un risque. On ne sait jamais, notamment avec la personnalité du président américain, jusqu'où il veut aller et qu'est-ce qui est vraiment à prendre au sérieux et qu'est-ce qui est plus, je dirais, un peu entre guillemets, du chantage. Et donc, de ce point de vue, c'est difficile aujourd'hui à vraiment le quantifier, mais clairement, effectivement, au niveau des risques potentiels, les tensions commerciales, et si on veut même parler d'une guerre commerciale, c'est clairement parmi les risques qu'il faut prendre au sérieux.
Si on revient à l'Europe, il y a bien sûr le dossier italien. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, au-delà des aspects politiques? On a vu des réactions sur notamment les taux, bien entendu. Il y a un sujet sur la dette aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dossier? Est-ce que c'est aujourd'hui le point d'inquiétude en Europe?
En tout cas, c'est un point d'inquiétude qui à nouveau montre que les défauts, finalement, les défauts de construction de la monnaie unique sont toujours là. Maintenant, l'Italie, c'est effectivement différent de la Grèce en ce sens que c'est quand même la troisième économie de la zone euro, donc potentiellement c'est quelque chose de plus grave. Mais pour l'instant, c'est très difficile maintenant de le quantifier et de voir effectivement quel sera l'impact à court et moyen terme.
Du côté des entreprises, est-ce que les entreprises, elles, sont suffisamment en bonne forme justement pour dans ce contexte-là?
Je dirais qu'il faut vraiment beaucoup différencier. Il y a clairement eu au cours des dernières années, suite justement à cette politique de taux très bas, il y a à nouveau eu un endettement des entreprises. Et donc de ce point de vue, il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui. Quand même, les bilans sont un peu plus entre guillemets à risque. Beaucoup d'entreprises se sont aussi endettées pour, notamment aux États-Unis, pour acheter leurs titres, pour augmenter leurs dividendes. Donc ça, c'est quelque chose à suivre de près. Donc je pense qu'on ne peut pas généraliser. Il faut vraiment faire la part des choses. Mais clairement, d'une manière générale, on peut dire que l'endettement des entreprises ça a à nouveau augmenté et donc ça s'ajoute à ce problème d'endettement des États, des ménages. Donc aujourd'hui, on a vraiment un problème de surendettement généralisé.
Alors ça nous amène à la politique monétaire. Il y a quand même une divergence entre ce que pense le marché, notamment aux États-Unis, de ce que dit la Réserve fédérale américaine pour parler des États-Unis. Est-ce qu'il faut s'attendre enfin, entre guillemets, à une hausse de taux plus forte ou plus rapide?
Non, moi je ne le pense pas vraiment. Donc les banques centrales essayent de relativement bien communiquer ce qu'elles ont l'intention de faire. Donc du coup, on sait qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale va continuer le resserrement de sa politique monétaire. En Europe, la Banque centrale européenne a signalé que d'ici, je dirais, le deuxième semestre 2019, il n'y a pas de hausse des taux à craindre. Et je pense que d'une manière générale, si on accepte qu'il y a un problème de surendettement, la conséquence de ça, c'est que les taux ne peuvent pas énormément augmenter sans qu'il y ait des problèmes économiques qui vont suivre derrière.
On avait eu quand même, ça avait eu un impact important sur les marchés financiers en début d'année. Le sujet inflation revenir, il a semble-t-il disparu, mais est-ce qu'il ne risque pas de revenir à nouveau dans le débat, effectivement, pour les États-Unis comme pour l'Europe?
Sur l'inflation aussi, je pense qu'il faut distinguer entre les facteurs plus structurels et plus cycliques. Structurellement, je pense qu'il y a toujours ces facteurs de la globalisation, la digitalisation, tout ça qui sont plutôt des facteurs de désinflation, voire de déflation. D'une manière plus cyclique et plus court terme, il y a effectivement le marché de l'emploi aux États-Unis où le taux de chômage aujourd'hui semble en tout cas très bas, qui pourrait effectivement entraîner des tensions sur les salaires. Jusqu'à présent, ça reste relativement limité. Ensuite, ces tensions sur les salaires si on part de l'hypothèse que les entreprises peuvent faire passer cette augmentation de leurs coûts à leurs consommateurs en augmentant leurs prix, pourrait générer des tensions, quelques tensions inflationnistes. Donc c'est quelque chose à suivre de près. Mais à nouveau, le facteur, l'environnement structurel reste quand même un environnement plutôt d'inflation continue dans la sphère réelle. L'inflation est clairement plus dans la sphère financière et dans l'immobilier.
On a vu du côté des pays émergents un impact de l'évolution du dollar, hein, notamment. De votre point de vue, est-ce que les pays émergents sont à risque ?
D'une manière générale, il y a généralement une relation relativement étroite entre le dollar et la performance, en tout cas des marchés émergents. En ce sens, dollar faible, c'est plutôt une période où les marchés émergents ont tendance à surperformer. Et lorsque le dollar se renforce, c'est l'inverse. Pour l'instant, le renforcement du dollar reste quand même, somme toute, relativement limité. Donc je ne pense pas que les pays soient à risque. Mais ensuite, on a souvent tendance à mettre dans cette classe pays émergents tout un tas de pays qui déjà ont émergé ou en tout cas, il faudrait fortement différencier selon les pays. Mais je pense que cette tendance générale, qui est de dire un peu la locomotive de l'économie mondiale, se déplace de plus en plus vers l'Est, ça reste clairement une tendance à long terme.
Du côté effectivement des perspectives, est-ce que aujourd'hui on met pas trop de côté justement ou est-ce qu'il y a des risques qu'on ne voit pas aujourd'hui? Je parlais des devises, il y a le pétrole aussi, avec ces banquiers centraux qui sont toujours à la manœuvre, mais est-ce qu'on n'en oublie pas des risques qui peuvent survenir? L'Italie par exemple, c'était pas forcément prévisible.
Si, tout à fait. Donc en fait, je pense que c'est une conséquence de cette politique de taux très, très faible. Cette politique a amené et continue à amener les gens à prendre des risques et le risque, d'une manière générale, n'est plus assez payé. Donc ça, c'est clairement le cas. Mais tant qu'il y a cette situation où les gens se disent « oui, ok, mais les taux sont tellement faibles qu'il n'y a pas vraiment d'alternative aux actifs à risque », ça, pour l'instant, ça reste toujours le cas.
Donc il peut y avoir aussi ce risque que les banquiers centraux n'arrivent pas à sortir de cette situation alors que ça fait effectivement des dizaines d'années de taux bas. Mais compte tenu de la situation, vous avez rappelé la dette des États, la dette privée, finalement là, ils soient à la limite de leurs possibilités.
Oui, et d'autant plus il n'y a pas vraiment de précédent historique. Donc on ne peut pas dire on a connu ça il y a 50 ou 60 ans et voilà comment s'est déroulée en fait la sortie de ces politiques très très... très peu orthodoxes, disons comme ça. Donc pour l'instant, on ne le sait pas du tout. Et ce qui est clair, c'est que ces politiques ont encore contribué à augmenter le problème de l'endettement. Et avec maintenant ce problème de l'endettement, il devient d'autant plus difficile de normaliser les taux d'intérêt ou d'augmenter les taux d'intérêt.
Merci Guy Wagner d'avoir fait le point avec nous.
Merci à vous.